Bien le bonjour à tous, à toutes. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Alors, c'est l'édition du vendredi 18 mai 2018. Hélène Bédard qui vous parle. J'ai avec moi en studio Francine Forget. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Ça va bien?
Oui, vous aussi?
Oui. Vous avez l'air d'avoir porté le soleil avec votre sourire. Oui,
je le traîne toujours avec moi.
Bonjour Catherine Brunet.
Bonjour Hélène.
Tu vas bien?
Oui, ça va et vous?
Oh oui, absolument. Et en la régie, nous avons Maurice Boisduc. Bonjour Maurice. Oups.
Oui, excuse, bonjour.
C'est la personne de la régie. C'est pourtant où sont ces boutons. Ce matin, nous allons vous parler de différents sujets. Francine, vous allez nous parler de...
Ben d'abord, je dirais, pour faire plaisir à Catherine et Emmanuel, je lui avais promis la semaine dernière, j'ai pas tenu ma promesse. Alors, on va parler un petit peu de crypto-monnaie. Et certainement du G7 qui arrive plus vite que l'Internet dans la région de Charlevoix.
Tiens donc.
Oui,
tiens donc.
C'est ça.
Fort intéressant encore une fois. Et Catherine, vous nous...
Je vais parler un peu de baseball, mais on va le critiquer un peu, ce baseball, ce sport qui est devenu peut-être un moyen de faire de l'argent uniquement. Peut-être un moyen aussi de critiquer notre société. On va aller voir ça. C'est toujours dans nos projets.
Bien, merci beaucoup. Eh, mon Dieu, toujours des beaux articles intéressants. Pour ma part, je vais vous jaser de quelques articles Arrow sur nos identités virtuelles post-mortem. Et probablement quelque chose qui est le poids des mots de Noémie Mercier. Nous vous revenons dans un petit moment. Voilà de retour et Francine Forget nous introduit.
Les crypto-monnaies. Des mines portables qui sont fabriquées à Montréal. Des mines entre guillemets, là, hein? C'est ça. Tristan Péloquin nous en parlait dans l'édition de la Presse Plus du 5 mai dernier. Même si le célèbre investisseur Warren Buffett est persuadé que l'aventure des crypto-monnaies va presque certainement mal finir, son scepticisme ne l'empêche pas d'investir indirectement dans le secteur à Montréal. Solutions climatiques TMI, une des filiales de sa société, Berkshire Hathaway, située sur le boulevard Imus, s'est lancée dans la construction de mines de crypto-monnaies portables que son partenaire d'affaires souhaite installer près des barrages d'Hydro-Québec. Ces mines portables prennent la forme de conteneurs standards de 40 pieds, au-dessus desquels les ingénieurs spécialisés en ventilation de la firme Kelvil M-Tech ont installé un immense système d'aération. Résultat, ils arrivent à placer 1200 mineurs dans une boîte métallique. Pouvant être déployés n'importe où dans le monde en 2 jours, chacune de ces installations consomme 2 mégawatts d'électricité et peut générer environ 1 million de dollars de revenus en crypto-monnaie chaque mois. Comment ça fonctionne? Pour ceux à qui le concept est moins familier, toutes les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, reposent sur les calculs de milliers d'ordinateurs qui servent à confirmer les transactions. À chaque instant, ces appareils, situés partout dans le monde, appelés mineurs, effectuent des centaines de millions de calculs pour trouver la solution à un puzzle mathématique qui rendra inaltérable le registre officiel des transactions. Mais comme ces calculs sont entièrement énergivores, les personnes qui exploitent ces mineurs se font allouer une récompense en crypto-monnaie pour leur participation à la sécurisation du réseau. La spéculation sur ces primes, qui représentent environ 18 millions de dollars par jour juste pour le Bitcoin, est au cœur d'une gigantesque industrie mondiale du minage. La Chine a catégoriquement interdit à ses ressortissants de s'adonner à cette activité énergivore. Des milliers d'investisseurs asiatiques ont donc ciblé le Québec depuis le début de l'année pour y déménager leur équipement et profiter de son hydroélectricité à bas prix et de ses vastes capacités de production. Hydro-Québec a reçu des projets totalisant plus de 10 000 MW d'électricité, ce qui est énorme, reconnaît le porte-parole Marc-Antoine Pouliot. Mais le gouvernement Couillard, craignant de dilapider son électricité dans des projets créant peu de nouveaux emplois, tarde toujours à leur donner le feu vert. Des sources indiquent à la presse qu'il s'apprêterait à accorder entre 500 et 1000 MW d'électricité pour alimenter ces mines virtuelles. Les projets seront acceptés en fonction de l'importance de leurs retombées économiques, de la capacité d'interrompre les activités en période de pointe hivernale et du volume d'électricité demandé pour chaque installation. C'est là que M. Kelvin Emtek et TMI croient avoir un avantage concurrentiel grâce au système de mines portables qu'ils ont mis au point. On voulait que ça puisse se transporter facilement par camion, par bateau ou par train. Le but n'est pas de les déplacer à tout bout de champ, mais plutôt de faire disparaître le problème d'accès à l'électricité. On veut rapprocher ces mines de crypto-monnaies le plus possible des centrales hydroélectriques et des régions éloignées où Hydro-Québec a des surplus d'électricité à vendre, explique M. Nidiab, un des ingénieurs de Kelvin Emtek qui ont conçu le prototype. Hydro-Québec reconnaît avoir des stations de transformation en régions éloignées dont les capacités sont sous-utilisées. La configuration du réseau pourrait effectivement permettre à certains endroits d'accommoder une demande en électricité accrue. La connexion pourrait se faire rapidement, estime M. Pouliot. Autre avantage, les mines portables construites à Montréal sont spécialement conçues pour récupérer l'immense quantité de chaleur générée par le calcul frénétique des appareils de minage. L'air chaud évacué par les ventilateurs peut servir à chauffer un mélange d'eau et de glycol dans des serpentins, lequel peut ensuite alimenter des systèmes de chauffage industriel. On arrive à récupérer entre 80 et 97% de la chaleur produite. On pourrait installer les conteneurs près des serres de marijuana ou de centres communautaires, par exemple, et la fournir gratuitement à des partenaires. C'est comme si on disait « je te gratte le dos, tu me grattes le dos », résume M. Neyad. Son entreprise dit être déjà en pourparlers avec une société immobilière de la banlieue sud de Montréal pour alimenter le réseau d'eau chaude d'un projet en cours. Jusqu'à maintenant, Kelvin Emtek et TMI ont livré une dizaine d'unités mobiles construites à Montréal à leurs clients. Une commande pour 85 autres est en cours, mais la production a été envoyée à une usine de TMI située au Michigan afin de répondre aux exigences d'affaires imposées par l'administration Trump. Ce projet a créé 450 nouveaux emplois. Nous serions plus heureux d'en créer autant ici à Montréal si on pouvait fournir des entreprises qui ont des projets ici, affirme le directeur des ventes de TMI, Alex Cutter. Chaque conteneur, une fois doté de sa ventilation et de ses systèmes électriques, vaut autour de 700 000 $. Les partenaires montréalais ne s'occupent pas d'y installer les cartes de minage et les autres systèmes informatiques nécessaires à leur fonctionnement, lesquels font grimper leur valeur unitaire à plus de 5 millions de $. Nous sommes des experts en ventilation et en climatisation, et c'est ce qu'on offre à nos clients. Une installation fiable qu'on peut déployer n'importe où rapidement. On ne veut pas avoir à gérer l'aspect informatique, indique M. Neyad. Après tout, on dit que ce sont les vendeurs de pic et de pelle qui ont fait la fortune pendant la ruée vers l'or. L'adage veut peut-être aussi pour les mines virtuelles. Alors des mines qui sont construites à Montréal, si on peut dire ça ici, dont on parlait le 5 mai 2018 dans la Presse Plus.
Voici en studio, Hélène Bédard au micro. Moi, Madame Forget, tout à l'heure, nous a parlé de virtualité. Moi, je vais vous parler de Haro sur nos identités virtuelles, mais post-mortem. Sujet fort intéressant, mais peu abordé. On sait, c'est un texte de Carole Montpetit dans Le Devoir. On sait généralement quand notre vie numérique commence, quand on sait qu'on... À partir du moment où on ouvre un compte Facebook, par exemple. Mais on ne sait pas toujours quand elle finira. même si un géant comme Facebook offre la possibilité à ses membres de remplir un formulaire qui indique qu'ils nomment comme légataire de leur page Facebook et s'ils souhaitent que cette page soit détruite après leur mort, force est d'admettre que peu d'entre nous s'en préoccupent, ou même peu d'entre nous même le savent. Le réseau est donc peuplé de pages fantômes. En fait, on prévoit que Facebook aura plus de morts que de vivants sur son réseau social en 2098. Deux étudiants en maîtrise qui présentent des conférences cette semaine au congrès de l'Association francophone du savoir à Saguenay s'intéressent à la relation que les vivants entretiennent avec les traces numériques de leurs proches qui sont morts. Thomas Blouin, qui est étudiant en sociologie à l'Université Laval, a rencontré 16 personnes de différents âges, dont un proche qui est mort récemment, et leur a demandé quelle est leur relation avec les traces numériques du défunt. Les profils de ces personnes étaient variés. Certains avaient vécu une mort subite d'un proche, d'autres s'y étaient préparés depuis un certain temps. Bon, mais dans les deux cas cités, la réaction des survivants était fort différente. Les personnes très proches du défunt, celles qui partagent sa vie tous les jours, sont plus enclines à aller fouiller dans les courriels, les textos de ce dernier, que celles qui en étaient éloignées. Parfois, quand la mort est récente, les proches veulent éviter de tomber sur des choses qui rappelleraient des souvenirs heureux ou malheureux. Il y en a qui ont peur de trouver de nouvelles informations. D'autres, au contraire, vont aller chercher du réconfort en repassant les conversations, même les conversations de tous les jours qu'elles ont eues avec le défunt. Certaines personnes ont fait des trouvailles qui les ont secouées. Un homme découvre du matériel pornographique sur l'ordinateur de son frère. Une femme réalise que son conjoint a déclaré son amour à une autre. Un fils s'aperçoit que son père, qui se montrait toujours positif par rapport à la maladie, a été en fait très troublé. Thomas Blouin, donc cet étudiant, a aussi découvert que les mots de passe qui déverrouillent l'accès à cette vie numérique sont souvent faciles à trouver. Certaines personnes en laissent des listes, d'autres les ont données à des amis ou encore les proches ont fait une démarche pour les obtenir. Pour cet étudiant, les traces numériques pourraient permettre par ailleurs de vivre son deuil de façon plus intimiste et personnalisée. Sonia Trépanier, une autre étudiante en sociologie, s'intéresse elle aussi aux interactivités posthumes effectuées sur la page Facebook de personnes décédées. Même si Facebook prévoit la signature d'une sorte de testament numérique, il faut que les survivants prouvent la mort du membre à la... prouvent donc la mort du membre à l'aide d'un certificat de décès. En ce moment, les gens ne réalisent pas comment nos données numériques sont un legs comme n'importe quelle autre sorte de legs. Certains comptes Facebook de défunts deviennent une forme de lieu de commémoration après le décès où les gens peuvent continuer d'envoyer des messages. Ils peuvent écrire « Je m'ennuie de toi » par exemple ou envoyer des photos où le défunt figure. Ces ajouts à une page Facebook peuvent avoir des répercussions troublantes sous forme de notifications par exemple sur le réseau des amis du défunt. « Je veux connaître les motivations des interactions posthumes avec Internet » dit cette étudiante. Par ailleurs, il se peut que l'on trouve la page Facebook d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps sans savoir qu'elle est depuis décédée. Il arrive même que des comptes de personnes décédées soient piratés, comme en témoigne un reportage sur le sujet paru dans le quotidien britannique The Independent. C'est à suivre, et surtout, de ce pas, moi je vais essayer de trouver, il est où le testament dans Facebook? Alors, c'était un texte dans Le Devoir, paru cette semaine, de Carole Monpetit.
À soi, messieurs, mesdames, on va briser des cœurs. Voici le cardiogramme de Roger Gontager. J'ai un dilemme sérieux, je vous le soumets sans détour. Qu'est-ce que ça donne d'être heureux, si t'es pas en amour? L'argent, le job, le sport, puis toutes les belles affaires sont dans la valise du char. Le char est à fourrière. Il y en a même un jour, dis-toi, qu'est-ce que tu veux? De l'amour, et tous avec des œufs. La femme cherche partout, police court après bruit, je inquiète, vont bien un jour finir par se marier. Ben bien content pour eux, le souhait des bons amants, ils vécurent peureux, eurent de nombreux paiements. La haute fidélité, c'est pour les systèmes de son, pour les clients de la baie, cocu dans le salon. Pi, 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 pis si mouille mouillera, pis si neige on pelletera, hola pour la vida. Qu'est-ce que j'ai volé? J'allais défoncer avec la blonde et nos baissés dans pas de ma peau. Ça, c'est le bonheur. C'est l'orage gigantateur. Moi, j'ai un idéal, c'est de rater ma vie. Je sais pas si c'est normal, j'ai pas encore réussi. Un problème de poisson, une petite nouvelle pour vous. Devoir ou en prison, j'en ai trouvé partout. Tout le long de ma route, j'ai fait des erreurs. C'était plus fort que tout, je les ai appris par cœur. Ça donne de l'émotion forte, puis je n'ai jamais assez. Moi, où ce que le vent m'emporte, je t'apprendrai à laisser. Les jaloux qui me font chier me le pardonnent tout de suite. Pour pas les oublier, j'ai toute la liste ici. Dans mon coffre à tickets, sur pinote et pécate, tout bien classé par dette, dans les marches d'une cravate. J'arrive à banque, bonjour, je vous vendre mes dettes. Je reviens heureux comme tout, comme petit cochon dans la boîte. Pipi, pipi, si mouille, mouillera. Ici, les gens pèlent la porra vida. Qu'est-ce que vient voler? Ça l'a défoncé avec la blonde et non, puis c'est dans pas de ma faute. Ça, c'est le bonheur, selon Roger Gangbacker. Moi, je me mêle pas de politique, les vers de terre shiny. Pour ma santé publique, je m'en tape un par année. Juste pour les funérailles, les bagnoles flambant de voir un ministre qui broille. C'est sûr que ça pèpe le papa. Parlant de religion, la Mecque et puis l'islam. Nous autres dans notre région, c'est la Mecque et puis la slam. Comme dit dans sa caverne, le gourou consacré, c'est l'idée d'Oule d'Éden, fuck him all but six. Qu'est-ce qu'il disait pour ça? Le pire, c'est quand que le pire se met à revirer, il y a des choses bien pires qui sont jamais arrivées. À trop penser à l'avenir, on en oublie le présent, ça fait qu'à l'avenir, pensez-y plus souvent. Là, je m'en vais chez Denis, son beau futon en fond, comme on dit dans le showbiz, le gars, je must go home. Pis, 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 pis si mouillé mouillera, pis si neige en pèlera, hola pour la vida. Qu'est-ce que tu voler? Je la défonce avec la blonde, et non, pis c'est donc pas de ma faute, ça c'est le bonheur, c'est l'orage comme la peur.
Richard Desjardins, la pièce Roger Guntaker.
Merci, merci Maurice. Alors, nous allons poursuivre avec Catherine Brunet.
Oui, j'avais envie de parler un peu de sport, ça m'arrive jamais. Mais c'est quand même un article qui reste dans l'univers social, de réflexion sociale. C'est un article du nouveau projet, ça s'appelle « Comment rester romantique à propos du baseball ». C'est un article de Pierre-Yves Néron. Depuis une vingtaine d'années, les statistiques avancées ont complètement modifié notre compréhension du baseball. Et, inévitablement, la perception que nous en avons. Pour le meilleur ou pour le pire? Pour tout amateur des Expos de Montréal, l'été 94 a été une cruelle leçon d'injustice. La puissante formation montréalaise dominait alors joyeusement ses adversaires et se dirigeait tout droit vers le titre de la division S de la Ligue nationale de baseball. Une équipe de rêve. Pas une équipe dont on avait eu le temps de se tanner, comme une certaine équipe d'un sport sur glace. Pas comme les maudits braves d'Atlanta qui s'écroulaient chaque année durant les séries. Impossible, cet été-là, de ne pas avoir été emballé par ce qui s'en venait, par le potentiel de ce groupe de jeunes vedettes montantes. Larry Walker, si intimidant au bâton comme au champ droit. Marc-Cri Grissom, qui aurait pu couvrir tout le champ extérieur à lui seul. Pedro Martinez, l'air d'avoir 8 ans et demi, qui dominait tous les frappeurs avec une balle rapide irréelle. John Witherland, si confiant en fin de match et dont les fesses bombées ont sans doute suscité mes premières réflexions sur la binarité du genre et l'hétéronormativité. Moise Alou, qui terminera la saison avec une formidable moyenne au bâton de .339, tout juste un an après avoir subi l'une des pires blessures de l'histoire du sport. Et puis, le 11 août, à l'aube des séries éliminatoires, les joueurs de baseball majeur ont décidé de faire la grève. La saison a pris fin prématurément et il y a fallu tout arrêter. Cesser de penser à ce qui s'en venait, de rêver aux séries mondiales, d'écouter Roger Brulotte, décrire que, dis-je, hurlant, les exploits de nos amours. Désespéré que le Québec pourrait un jour être moins obsédé par le hockey. L'année suivante, la grève terminée, les vedettes des expos étaient presque toutes parties gagnées d'immenses salaires chez l'ennemi. Une grande blessure pour le garçon foot-baseball que j'étais. Le genre de blessure qu'on ne pense pas si profonde, mais qui nous façonne. J'enseigne désormais la philosophie politique à l'université. Rousseau, Rawls, les théories de la justice sociale, pourquoi vit-on dans un monde aussi injuste, ce genre de choses. Mes étudiants me demandent souvent l'air d'avoir trouvé la question qui pourrait détruire l'ensemble de ma carrière. Mais monsieur, qu'est-ce que c'est exactement l'injustice? Comment la définir? C'est pas subjectif tout ça. Avant de répondre, il m'arrive parfois de penser aux expos. L'injustice, c'est 1994. Comment en effet ne pas en arriver à cette conclusion devant cette grève de millionnaires? Comment ne pas en voir qu'elle a privé Alou d'une douce vengeance sur la vie? Comment prononcer la phrase « Pedro Martinez jouait pour les expos » sans ressentir cette étrange impression d'avoir cerné l'essence même du concept d'iniquité? Les expos m'ont confirmé que la vie était profondément injuste. Bien sûr, je ne fais qu'y penser. Je n'en parle pas. D'abord, parce que ce n'est pas vrai. L'injustice, c'est nos structures sociales qui désavantagent des individus pour des raisons arbitraires et qui en récompensent d'autres juste parce qu'ils sont nés dans la bonne famille. Et ensuite, parce que j'enseigne en France et que mes étudiants sont donc majoritairement français. Ils ne comprendraient pas du tout. Pour eux, la blessure équivalente, c'est 2016 et le but d'Elder ou 2006 et l'expulsion de Zidane qui défendait pourtant sa mère. Ils n'ont pas connu Larry Walker. Comment ne pas être romantique à propos du baseball? Demande Billy Bean, interprété magnifiquement par Brad Pitt dans le film Moneyball. Eh bien, je le sais pas. Je ne vois pas pourquoi on devrait cesser de l'être. Bean est connu parce qu'il a été le premier à diriger une équipe de baseball en prenant très au sérieux le mouvement sabermétrique, dont l'objectif est de repenser notre conception du sport à partir des statistiques dites avancées. Apparue dans les années 1960, la sabermétrie est l'analyse empirique d'un paquet de données visant à déterminer le plus scientifiquement et le plus objectivement possible l'alignement susceptible de remporter des victoires. Fini le règne de l'entraîneur qui pense avec ses tripes. Vive celui du jeune économiste MBA d'Harvard en poche qui pense avec des algorithmes. Exit la simple moyenne au bâton. Voici le win above replacement, victoire après remplacement, ou WAR, qui prétend calculer le nombre de victoires supplémentaires qu'une équipe obtiendra avec un joueur donné. Les implications sont radicales. Vous pensiez que Ricky Anderson était un grand? Pensez-y à nouveau. Ses vols de but n'ont pas apporté grand-chose à son équipe. Votre modèle de joueur parfait est Derek Jeter? Trouvez-en vite un autre, ses statistiques défensives démontrent qu'il était trop lent. Vous pensez que certains joueurs sont meilleurs sous pression, plus clutch que d'autres, que certains sont dans une bonne séquence au bon moment? De la psychopop. C'est ainsi, à grand déboulonnage de mythes, que les Sabres nous ont invités à cesser d'entretenir un rapport romantique au baseball. Il fallait dorénavant le penser autrement, en mode stat avancé. Et il faudra faire de même avec les autres sports, hockey, soccer, basketball, etc. L'amour du baseball ne pouvait que s'en réjouir, n'est-ce pas? Ce sport est déjà le plus intellectuellement raffiné de la planète, en raison de la complexité de ses stratégies, de son bouleversement des catégories de la défensive et de l'offensive. C'est le seul sport dans lequel l'équipe défensive est en position de la balle, en possession pardon, de la balle. Et de son rapport au temps, aucun chronomètre ici. L'idée de jeter un regard nouveau, plus complexe, enrichi par la science et les statistiques, semble aller de soi. Et elle avait de quoi séduire les amateurs de plusieurs sports, cette idée, étant donné la qualité des débats et des conversations dont ils étaient et sont encore l'objet. C'est d'ailleurs l'une des grands paradoxes du sport contemporain. D'un côté, il passionne les foules. De l'autre, on lui réserve peut-être la pire forme de journalisme qui existe. Si le sport tient une place aussi importante dans la vie de millions de gens, il est traité avec une étonnante négligence discursive. Dans un tel contexte, le partisan des stats avancées ressemble à un penseur des Lumières. Il a les allures de ceux qui nous donnent nos premiers frissons intellectuels, ceux qui luttent désespérément contre l'obscurantisme. On dirait Voltaire qui nous invitant à combattre le règne du préjugé qui caractérise l'ère du joueur naliste. Défendre l'importance des chiffres dans le sport, c'est comme imaginer Kant crier son « oser penser » sur le plateau d'une émission comme l'antichambre. Et je vais poursuivre cet article dans quelques instants.
retour en studio, je vais vous dire quelque... je vais vous poser une question. Que diriez-vous d'avoir un loyer en échange de bénévolat?
Ah. Oui.
Une étudiante ici habite gratuitement dans une résidence pour aînés, mais elle doit, évidemment, parler avec eux, chanter, tout ça. C'est un texte de Amélie Saint-Yves. Aux Trois-Rivières, une étudiante vit donc cette vie. En retour, elle parle, joue de la musique, chante avec eux. Joliane Plante, 20 ans, habite depuis janvier dans un 3,5 chauffé, éclairé, câblé à la résidence Les Marronniers de Trois-Rivières. Elle ne paie pas de loyer, seulement en échange de temps passé avec les aînés. Elle joue aux cartes avec eux jeudi soir, leur fait la conversation lors du repas, les accompagne pour une marche à l'extérieur ou même des visites à l'épicerie. L'étudiante en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières s'est engagée à faire du bénévolat pendant 40 heures par mois. On parle des enfants, des petits-enfants, de leur ancien métier, on parle de voyage. Il y en a d'autres qui veulent discuter parce que leur mari est malade, elles ont besoin de jaser. Je pense qu'on peut le dire qu'on s'aime. La résidence avait offert deux logements gratuits à des étudiants afin d'égayer la vie des aînés. Et ça fonctionne très bien, ma foi. Elle est très humaine, elle est ouverte à tout le monde. On oublie notre âge pour vivre avec une jeune. Et nous, on essaie de l'encourager à continuer ses études parce qu'elle est très intelligente, dit une résidente, Pierrette Marcouillet. Ça nous motive, elle est jeune, ça nous redonne de l'énergie, une énergie qu'on n'a plus, dit cette autre résidente, Thérèse Côté. Joliane sort parfois sa guitare, le temps de chanter, de jouer quelques morceaux. Une résidente a d'ailleurs commencé à pratiquer le piano depuis son arrivée. On ne savait même pas que cette résidente jouait si bien. Maintenant, elle joue tous les jours au piano à queue blanche dans l'entrée, avant et après les repas, explique la directrice. La résidence est inspirée d'une pratique des Pays-Bas pour lancer le projet qui ne se fait nulle part ailleurs au Québec à sa connaissance. Elle avait reçu une vingtaine de curriculum vitae d'étudiants intéressés à habiter avec les aînés. La direction a fait passer des entrevues pour choisir le meilleur candidat. Elles étaient deux étudiantes à participer au projet, jusqu'au début du mois d'avril. L'autre jeune femme a dû quitter pour des raisons de santé. La direction, eh bien voilà, est ouverte à recevoir des nouveaux CV. Avis à tous. Quelle belle idée! Alors, c'est apparu dans le Journal de Montréal, un texte d'Amélie Saint-Yves, avril 2018. Nous vous quittons très court moment, le temps d'une pause. Restez avec nous. Nous vous revenons tout de suite après.
Suspect boulevard Haussmann à son cœur. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pas bien. des étés entiers au soleil. Mais la musique est mouillée pareil. Pourquoi ce mystère, malgré la chaleur des foules, dans les yeux d'hiver?
S'appelle Juliette Armanet, elle nous chantait Ultramoderne Solitude.
Très belle pièce musicale. Merci Maurice. Alors nous voilà revenus dans, en studio pour le deuxième volet de Les Voix de Service Magazine et on poursuit avec Francine Forget.
Merci Hélène. Alors pour faire un lien avec l'ultramoderne dont on vient de parler dans cette magnifique chanson, on pense à tort que l'Internet haute vitesse au Québec, c'est l'évidence. Et pourtant, dans la presse plus du 12 mai dernier, Gabriel Bélan a pondu un article qui s'appelle « Le G7 arrive plus vite que l'Internet ». Alors que les chefs d'État du G7 seront à la Malbaie au début du mois de juin pour notamment préparer la planète aux emplois d'avenir, des entrepreneurs installés dans le parc industriel le plus proche déplorent de devoir faire des affaires avec un Internet du temps des primates. Bell a déroulé la fibre optique à la Malbaie dans les derniers mois pour offrir une connexion haute vitesse à temps pour le sommet. Mais des entrepreneurs locaux regrettent que l'entreprise, tout comme ses concurrentes, n'ait pas raccordé en même temps le parc industriel de Clermont, seulement à 9 km du manoir Richelieu. On fait des conférences téléphoniques avec le Mexique et ils sont plus rapides que nous. Ça prend une éternité se connecter et quand on se connecte, c'est tellement mauvais que je prends le téléphone et je les appelle, raconte le président de Fibrotech, Luc Tremblay. L'entreprise de M. Tremblay ne compte que des clients à l'extérieur du Québec. Elle fournit des moules et des pièces en carbone à de grands constructeurs automobiles et à des avionneurs. Fibrotech compte une centaine d'employés et est en pleine croissance. Mais la lenteur de la connexion Internet est un véritable cauchemar, explique M. Tremblay. Le système sur cuivre est tout juste bon pour envoyer des courriels, dit-il. L'entrepreneur a appelé Bell et des concurrents pour connaître ses options. On lui a répondu qu'il pourrait avoir une connexion haute vitesse au coût de 800 $ par mois, ce qu'il juge prohibitif. Nos clients ne trouvent pas ça bizarre, notre mauvaise Internet. Ils trouvent ça impensable. C'est comme te demander si t'as l'eau chaude chez vous. Au garage, Léonce et Hermel Tremblay, dans le parc industriel de Clermont, on doit se connecter sur le réseau cellulaire à l'aide de routeurs pour avoir une vitesse suffisante. Ça coûte une fortune, lance Pierre Villeneuve. Quand on veut se parler en ligne, c'est comme si on revenait au temps des primates. Ça coupe et c'est décalé. Ça marche pas, dénonce le garagiste. Moi, j'habite dans un fondrant, dans un calife de coin dans le bois, et l'Internet rentre mieux que dans le parc industriel de Clermont. J'aurais été aussi bien de construire mon garage dans le bois. Les entrepreneurs du parc industriel espéraient que Bell déroule la fibre optique jusqu'à chez eux dans le cadre du G7. L'entreprise l'a fait, à la demande du gouvernement fédéral, jusqu'à la Malbaie, qui va accueillir le sommet les 8 et 9 juin. L'entreprise a reçu 6 millions du gouvernement fédéral pour le faire. Mais le raccordement de Clermont à 5 km de là n'était manifestement pas dans le contrat. C'est un parc industriel régional, fait valoir le maire de Clermont, Jean-Pierre Gagnon. L'élu explique avoir écrit au député libéral Jean-Yves Duclos et au premier ministre Justin Trudeau pour leur demander d'intercéder auprès de Bell. On aurait aimé ça que ça se fasse cette année pour le G7. Les camions et les équipes de Bell étaient tous sur place. Chez Bell, on me répond que le dossier de la ville de Clermont a été devancé. On était planifié pour 2026 et là, on est rendu en 2020. Les devis sont censés être faits l'année prochaine. Bell n'a pas voulu confirmer le raccord du parc industriel de Clermont à la fibre optique d'ici 2020. Pour ce qui est des plans de déploiement pour la région, C'est de l'information que nous ne dévoilons pas pour des raisons stratégiques, explique une porte-parole de l'entreprise, Marie-Ève Franqueur. Clermont n'est bien entendu pas la seule municipalité dans cette situation. Le Québec regorge de régions privées de l'Internet à haute vitesse. Mais pour les entrepreneurs de Clermont, le contraste entre leur situation et la présence du sommet du G7 est frappant. Je trouve qu'on ne tire pas avantage à 100% de la présence du sommet. Parce que G7, c'est juste une fois et ça dure 2 jours, dit le président de Fibrotech, Luc Tremblay. Alors arrangez-vous pour avoir la face dans la fenêtre quand le star s'ouvre. L'Internet en région. Le gouvernement du Québec reconnaît l'image du star, elle est très bonne, effectivement. Vous avez tout à fait raison, cher collègue. Alors donc, je me reprends, excusez-moi. Le gouvernement du Québec reconnaît le besoin criant d'infrastructures technologiques solides à l'extérieur des grands centres urbains pour freiner l'exode des nouvelles générations. L'an dernier, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé que son gouvernement injecterait 105 millions de dollars dans 82 projets visant à offrir l'Internet haute vitesse à quelques 100 000 résidences dans le cadre du programme Québec branché. Le gouvernement québécois estime que près de 340 000 foyers de la province n'ont actuellement aucun accès à l'Internet ou disposent seulement d'une connexion médiocre. Selon le ministère de l'Économie, le programme Québec branché a pour but d'offrir aux Québécois en milieu rural une vitesse de téléchargement d'au moins 5 mégabits par seconde. Pour 2021, cette cible passe à 50 mégabits par seconde. Certaines entreprises, dont l'organisme sans but lucratif IHR Télécom, aident le gouvernement à remplir ses engagements. IHR Télécom a récemment conclu une entente avec les autorités provinciales pour améliorer les vitesses de téléchargement dans la MRC de Brome-Missisquoi dans les cantons de l'Est. IRH Télécom garantit une vitesse de téléchargement de 5 à 125 mégabits par seconde selon les besoins des clients, ce qui est relativement rapide, mais tout de même inférieur à ce qu'obtiendra la Malbaie. Le directeur général de la municipalité régionale de Comté, Robert Desmarais, affirme que près du quart des bâtiments de Brome-Missisquoi, la plupart en zone rurale, n'ont pas d'accès Internet convenable. Est-ce étonnant qu'une région si proche de Montréal n'ait toujours pas accès à l'Internet haute vitesse en 2018? Absolument, dit-il. Du côté de Charlevoix, le président de la Chambre de commerce locale, Julien Dufour, applaudit l'arrivée des nouvelles stations cellulaires. Celui qui travaille à Baie-Saint-Paul, où ne se rend pas l'Internet haute vitesse par câble de Bell, n'est pas rongé de jalousie. Au contraire, il espère que la bonne fortune de la Malbaie aura un effet boule de neige. Alors, un état de fait sur l'Internet haute vitesse fait par Gabriel Bélan dans la presse plus du 12 mai 2018. Et on garde nos stars ouverts.
Alors, merci beaucoup, Francine. Désolée pour mon fou rire de tout à l'heure durant la lecture de votre article. C'est moi qui ai parti le bal. Et voilà. Moi, je vais poursuivre avec Noémie Mercier. C'est une de mes auteurs chouchou de l'actualité qui va nous parler du poids des mots. Qu'en est-il? La règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin est bien plus qu'une convention linguistique. Elle déteint sur notre imagination, créant une vision du monde où les hommes sont omniprésents et les femmes occultées. Un texte qu'elle a écrit le 13 avril dernier. Le Canada, je ne sais si probablement que tout le monde le sait, mais je vais en parler, le Canada vient de modifier les paroles de son hymne national pour le débarrasser d'une référence masculine. Alors, les fils de la nation mentionnés dans la version anglaise « In all thy sons command » ont fait place au « nous », c'est-à-dire « In all of us command ». Donc, c'est plus inclusif. Ce n'est pas le seul pays qui tente de se servir du langage pour accélérer la marche vers l'égalité des sexes. Aucun n'est cependant allé aussi loin que la Suède. En 2012, un nouveau pronom personnel non genré, hen, H-E-N, y a été introduit pour compléter le masculin han et le féminin hon. Excusez-moi, là, il faudrait que je les épelle. Malgré la résistance initiale de la population, le mot serait tranquillement en train de passer dans l'usage. Une abondante littérature scientifique le confirme. La règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin est bien plus qu'une convention linguistique. Elle crée donc un monde où les hommes sont omniprésents, comme je le disais au début. Mais à quoi bon? N'y a-t-il pas d'aussi plus pressant pour la cause des femmes que les accords de genre? Ce phénomène pourrait avoir des répercussions bien réelles sur le statut des hommes et des femmes dans la société. Des recherches ont établi que le genre grammatical des mots conditionne à qui on prédit du succès dans différentes professions, qui on imagine dans des postes de pouvoir et à quel rôle on se permet d'aspirer. Par exemple, les adolescentes croient davantage en leur chance d'accéder à un métier traditionnellement masculin si on emploie les deux genres pour le désigner. On a besoin de mathématicien ou mathématicienne, mécanicien, mécanicienne, plutôt que le masculin seul. Même chose pour les garçons. Leur confiance de réussir dans une profession majoritairement féminine augmente si on utilise la marque du féminin, c'est-à-dire infirmier, infirmière, couturier, couturière, et non seulement le masculin, selon une étude du français Armand Chattard parue dans la revue L'année psychologique. Bien que le masculin générique soit censé englober des représentants des deux sexes, il a plutôt pour effet, dans notre esprit, de donner préséance aux hommes et d'éclipser les femmes. Le genre grammatical utilisé dans les offres d'emploi peut aussi infléchir la sélection des candidats, selon les travaux de chercheuses allemandes en 2015 dans l'European Journal of Work and Organizational Psychology. Quand les volontaires ont été appelés à évaluer des candidatures pour embaucher un chef d'entreprise, ils jugeaient les femmes tout aussi qualifiées que les hommes, à condition que le poste soit annoncé en, par exemple, président, présidente. Pour un poste désigné simplement sous le terme de président, les femmes étaient d'emblée considérées comme étant moins à la hauteur. La même tendance est à l'œuvre dans le domaine politique. Selon une autre étude allemande, on a demandé à des gens de nommer les personnes qu'ils aimeraient voir se présenter comme chef du gouvernement aux prochaines élections. Quand on les priait de nommer des politiciens ou des politiciennes comme candidats potentiels, ils proposaient plus de femmes que si on leur parlait seulement de politiciens. Ces travaux ont été résumés dans la revue Communication en 2005. En fait, nous sommes si sensibles au genre des mots que celui-ci influence non seulement notre perception des secteurs d'activité humaine, mais aussi notre conception des objets inanimés. Les choses nous apparaissent fort différemment selon les mots qui les dénomment, soit masculins ou féminins, dans notre langue maternelle. C'est ce qu'a découvert la professeure de psychologie Lera Boroditsky de l'Université Stanford en Californie. Le mot « clé », par exemple, une clé, est féminin en espagnol et masculin en allemand. Pour décrire les objets, les hispanophones utilisent spontanément des adjectifs à connotation féminine comme « délicat »,« petit », »,« mignon », alors que les Allemands, les germanophones, préfèrent des qualificatifs plutôt masculins comme « dur »,« lourd »,« métallique ». C'est l'inverse pour les ponts, un nom masculin en espagnol, mais féminin en allemand. De quoi ils perdent toute sa grammaire? Les locuteurs de l'espagnol qualifient volontiers les ponts de dangereux, de solides ou d'imposants, tandis que les locuteurs de l'allemand, ce sont des choses plutôt belles, élégantes ou fragiles. Le langage ne fait pas que représenter le monde qui nous entoure et l'engendre. Quand ça compte, quand les mots risquent de façonner l'idée qu'on se fait de soi-même ou d'autrui, ajoutez donc un « e » à la fin. Alors, un texte de Noémie Mercier dans l'actualité, toujours aussi excellente dans ses textes, paru en avril dernier. Catherine Emmanuel Brunet va donc poursuivre.
Oui, je suis toujours dans le nouveau projet avec un article de Pierre-Yves Néron, « Comment rester romantique à propos du baseball ». Et on était en train de parler de Kant et de l'émission, du plateau de l'émission L'Antichambre. Tout cela devrait me plaire. Je suis amoureux de baseball, mais aussi de philo, d'analyse, de réflexion, de vie contemplative. Mais quelque chose me dérange, une forme de malaise moral à l'égard du mouvement. Comment l'expliquer? Comment donner un sens au fait que, malgré tout, je veux rester romantique à propos du baseball? L'explication la plus simple est personnelle. Les Sabres ont détruit le genre de joueur que j'étais. J'adorais voler des buts, et j'avais une bonne moyenne, mais j'étais loin du bedonnant frappeur de puissance. L'amorti me semblait une action d'une finesse inouïe. Le monde du sport était si souvent rempli de brutes, il me donnait l'impression d'une pause, d'un petit geste doux et espiègle. Mais il y a plus. Au-delà de cette petite vexation personnelle, le malaise persiste. C'est peut-être parce que la théorie « Moneyball » est manifestement fausse, ou à tout le moins remplie de trous. Dans son analyse du fameux parcours des As d'Oakland en 2002, qui est à l'origine du livre puis du film, l'auteur Michael Lewis aurait par exemple sous-estimé le rôle joué par certaines superstars, notamment Miguel Tejeva et Barry Zito, tandis qu'il aurait surestimé le rôle joué par les buts sur balle. Alors c'est donc ça, les Sabres seraient dans l'erreur. Au fait, cela n'est pas très important, le malaise demeure et je le ressentirais même si la théorie s'avérait totalement fondée. Une autre piste pour expliquer ce malaise est la suivante. L'amour d'un sport correspond à un sérieux engagement esthétique. Nous le trouvons beau. Et la beauté du jeu, c'est peut-être ce que vient miner la sabermétrie. Elle a par exemple jeté le doute sur la pertinence d'une des plus belles choses du baseball, le vol de but. Lorsqu'il ne parlait pas de justice sociale, Rawls a aussi suggéré l'idée selon laquelle le baseball, en raison notamment de son organisation spatiale, avait atteint un stade de perfection. Mais Rawls n'avait pas uniquement en tête une thèse fonctionnelle sur l'efficacité des règles du jeu. C'était une thèse esthétique. Si le baseball est parfait, c'est qu'il peut régulièrement produire de la beauté. Par exemple, étant donné la vitesse de course des êtres humains et le positionnement des joueurs d'avant-champ, les buts sont situés à une telle distance du marbre que presque chaque retrait à l'avant-champ devient d'une grande élégance. Voler un but devient ainsi un geste beau, car très difficile, réalisable mais néanmoins osé, attendu mais surprenant. Et un vol de but réalisé contre un receveur comme Yadier Molina devrait être célébré comme une action dotée d'un certain panache. La réaction du sabreur? Bâillement. Un tel larcin est pour lui une distraction, un geste irritant qui nous éloigne du jugement objectif des algorithmes. Même chose pour l'amorti sacrifice, qui entraîne pour celui qui l'exécute un retrait quasi automatique, mais qui a pour finalité de faire avancer un coéquipier sur les sentiers. Que penser de cette abnégation en vue du bien collectif? Que dire de cet acte qui mélange éthique et esthétique dans une seule petite distribution du jeu? Irrationnel, nous dit le sabermétri. Statistiquement, inutile. C'est pour des raisons de cet ordre que le philosophe américain Michael Sandel a soutenu que le baseball était devenu moins intéressant avec la montée en flèche de l'idéologie Moneyball. Dans son essai « What Money Can Buy », où il développe une puissante critique morale de la marchandisation du monde, Sandel nous dit qu'en raison de l'importation de la logique marchande qu'il voit à l'œuvre dans Moneyball, le jeu est en quelque sorte devenu objectivement laid, au moins beau. Mais son analyse n'est pas partiellement correcte. La beauté d'un sport est plus complexe à saisir. Il ne s'agit pas seulement de considérer ce qui est objectivement beau pour ensuite regretter que cela le soit de moins en moins. Ce qui compte vraiment, c'est notre rapport au jeu. Aimer un sport signifie en grande partie décider de trouver un certain nombre de choses esthétiques. D'où l'idée d'engagement. Un double jeu 6-4-3 exécuté à la perfection, l'élan de Ken Griffey Jr. ou celui-ci particulier de Moisey Alou, les bas à l'ancienne, la balle courbe de Clayton Kershaw, Ricky Anderson volant un but, le relais au troisième but d'Ichiro en 2001. L'ensemble de la carrière de Derek Jeter, marqué par le sceau de l'élégance, que de la beauté pour celui qui veut bien décider, pour qui s'engage esthétiquement. L'idéologie Moneyball fait voler en éclats cet engagement esthétique. Ce qui devient aussi ridicule, c'est tout ce que nous nous racontons sur le baseball. Des histoires remplies de drames, de héros, d'échecs, de courageux vols de but. Des histoires qui deviennent ridicules dans un monde de sabermétrie. Mais il s'agit pourtant de l'une des grandes raisons pour laquelle nous aimons tant le sport. La narrativité, la mise en récit d'événements pour expliquer, comprendre, interpréter et se réconforter. Sur le flip de Derek Jeter, sur les performances de Kershaw en série ou sur qui aurait pu se passer en 1994, si. C'est aussi cela que vient saper Moneyball. Le saber, c'est celui qui nous dit que le flip de Jeter n'a rien changé à la série, qui veut montrer statistique à l'appui que non, Jeter n'était pas vraiment Monsieur November et qu'il était d'ailleurs un piètre arrêt court. Le saber, c'est celui qui te dit, à grands coups de complexe algorithme, que de toute façon, les expos de 94 se seraient écroulés fin août, début septembre. L'automne 1994 n'aura rien été de plus qu'une autre automne sans baseball à Montréal. Encore une fois, il n'y a que partiellement raison. Moneyball, c'est moins la marchandisation du monde que sa managérialisation, le manager. La managérialisation du monde, c'est l'émergence de ce que Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres, la réalisation efficace d'objectifs mesurables qui surplantent toute autre valeur. C'est la montée en puissance d'une classe professionnelle dominante qui manage, qui conseille, qui innove. C'est une armée de petits gestionnaires aux titres douteux, aux fonctions obscures. C'est les bullshit jobs dont l'émergence est analysée par le sociologue David Graeber. C'est la Startup Nation de Macron. C'est le jargon de Silicon Valley. C'est ce qui cloche avec Moneyball. Les gestionnaires statisticiens MBA qui accaparent le sport. Moins de tripes, plus de start-upers diplômés de Yale. Moins de moyenne au bâton, qui nous rappelle pourtant la vulnérabilité et la fragilité des meilleurs d'entre nous. Plus de statistiques innovantes. Et peut-être moins de petits garçons qui voient le baseball comme une métaphore de la vie et qui continuent à penser aux expos de 1994. Quand on prend le baseball, cette poésie sur gazon, et qu'on le trempe dans des eaux froides de calcul managérial, on risque de perdre aux charges. Je veux rester romantique à propos du baseball. Et c'est un article de Pierre-Yves Néron.
Et bien voilà, j'ai un très, très court article à vous présenter juste avant qu'on se quitte. Saviez-vous que les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants vivent plus longtemps? Nous le savons, nous vivons à une époque où tout a changé, y compris la sphère familiale. En effet, les deux parents travaillent autant. Grand bien nous fasse à nous, les femmes, sans culpabiliser. Et les grands-parents sont beaucoup plus actifs du fait de la durée de vie qui s'allonge. Si les parents comptent plus qu'avant sur leurs propres parents pour garder leur progéniture, il semblerait que les grands-parents ne l'entendent pas de cette façon, et pourtant. Alors qu'un sondage d'opinion Way a révélé que les deux tiers des grands-parents ne souhaitent pas garder leurs petits-enfants en permanence, une autre étude a pourtant démontré à quel point cela pourrait avoir un impact positif sur leur santé. De quoi faire changer les avis, n'est-ce pas? En effet, non seulement garder ses petits-enfants permet de maintenir une cellule familiale unie, mais cela garantirait également une meilleure santé. L'étude Berlin Aging Study a étudié la vie de presque 500 personnes âgées. Il est notamment ressorti que cet investissement de la part des grands-parents améliorerait les fonctions cognitives, diminuerait les risques de développer la maladie d'Alzheimer et préviendrait le stress. De cette façon, les seniors seraient plus actifs et stimulés par les nouvelles choses qui les entourent, sans parler de leur mémoire qu'ils font travailler, en partageant souvenirs et savoirs à leurs petits-enfants. Car n'oublions pas, le cerveau est un muscle que l'on doit entretenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions. Merci Catherine.
Merci Francine. Alors moi, c'est Francine. Merci Hélène.
Merci Hélène. Merci Francine.
Merci Maurice, je suis désolée. Alors, nous vous revenons vendredi prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Bon week-end.
Au revoir.
Bon week-end.